France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien Vous Fasse Weekend. Et ce matin, nous célébrons le plaisir de lire les romans de l'écrivain britannique David Lodge. La chute du British Museum, jeux de société, changement de décor, un tout petit monde, des romans inventifs et drôles, terriblement anglais et qui ont connu un grand succès dans notre pays. David Lodge, décédé en janvier dernier à l'âge de 89 ans. Et comme le dira l'un de nos invités, Denis Cosnard, David Lodge savait faire rire avec des thèmes sérieux. Avec nous également l'éditrice Delphine Valentin. Bonjour Christine Lapelle-Edouelle.
Bonjour Annie.
Journaliste indépendante et autrice de ces livres qui nous font du bien, également admiratrice de David Lodge.
Et comment ?
Quel est votre plaisir littéraire du week-end ?
Eh bien là, c'est un bon livre pour deux jours. Jérôme Chantron, l'affaire de la rue Transnonain. Je vous dirai quelle est la rue Transnonain et où elle se trouve.
Bonjour Céline Puertas.
Bonjour Ali.
Rédactrice en chef adjointe de Elle à table. Une recette british à partager ce week-end ?
C'est ça, un cloud eggs au bacon et granola salé. Alors c'est un peu flou, mais je vais tout vous expliquer.
En tout cas, en couverture de votre magazine, il est très appétissant.
Hein ? C'est ça.
Bonjour Thibaut de Saint-Maurice.
Bonjour Ali.
Honorable professeur de philosophie dans la vraie vie, quel est le menu de votre chronique philo ?
Eh bien, David Lodge a passé une bonne partie de sa vie, enfin je crois l'essentiel de sa vie d'ailleurs, dans les universités à enseigner. En ce moment, ça ne se va pas très bien dans les universités américaines. On va donc réfléchir à la liberté académique.
Bonjour Guimet Odissino.
Bonjour Ali.
Déjanté chef de rubrique cinéma à Télérama.
Ah bon,
qui deviendra...
wow, c'est mon nouveau label, d'accord.
Qui deviendra notre ami cette semaine ?
Eh bien, comment vous dire que c'est une femme, elle, la fac, bah, pour y entrer. Eh ben elle a pédalé. Hein.
Et merci pour les brioches que vous nous avez apportées.
Mais je vous en prie, très cher.
Bonjour Julie Neveu.
Bonjour Ali.
Maîtresse de conférences en linguistique à la Sorbonne. Au menu de votre chronique avec la langue.
Eh ben on va réfléchir au genre qui a permis à David Lodge de devenir si connu, c'est-à-dire le genre dit du campus novel, le roman universitaire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Quels sont les sous-genres dans les sous-sous-genres et les sous-sous-sous-sous-genres ?
À tout à l'heure en fin d'émission. Bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter. Grand Bien Vous Fasse, Ali Rebbi.
I think it's the ability to introduce
Je crois que l'humour britannique, c'est la capacité à introduire un élément d'irrévérence dans tous les aspects de la vie pour en ressortir le côté amusant. Ainsi, il n'y a pas la séparation entre différentes catégories de la vie ou différents compartiments de la vie où il y aurait un code comportemental à respecter. Dans l'esprit britannique, on a tendance à se déjouer de l'autorité en mettant en lumière l'absurdité dans tel ou tel groupe social et évidemment d'encourager le rire fondé sur l'irrévérence.
L'humour, la marque de fabrique de David Lodge au micro d'Augustin Trapenard, dans Boomerang en 2016. Bonjour Denis Cosnard.
Bonjour Ali.
Vous êtes journaliste au Monde. Bonjour Delphine Valentin.
Bonjour.
Vous êtes directrice de collection étrangère aux éditions Rivage. Rivage, l'éditeur historique de David Lodge. Alors, Denis Cosnard, pouvez-vous nous présenter David Lodge à celles et ceux qui n'en auraient jamais entendu parler ? Il est né le 28 janvier 1935 dans le sud de Londres. Comme il le disait au Monde en 2019, je descends de deux familles, les Lodge et les Murphy, l'une d'origine irlandaise, l'autre belge, des expansifs d'une part, des dépressifs de l'autre. Son père était musicien et chanteur dans des orchestres de danse et sa mère était secrétaire. Mais quoi d'autre, mon cher Denis Cosnard ?
Bah quoi d'autre, qu'est-ce qu'on peut dire de David Lodge, un grand écrivain, un grand artiste tout bêtement. Alors c'est pas de la très très grande littérature, je pense que ça restera pas dans l'histoire de la littérature comme Shakespeare ou Proust. Mais
et vous l'aimez quand même hein.
Mais non, mais faut être honnête, bon on va pas, voilà. Mais quel plaisir, quel bonheur de lecture, quelle drôlerie, sa pétille d'intelligence, sa pétille de verve et de subtilité. Et dans ce monde où effectivement, en ce moment, voilà, on est un peu pétrifié par l'actualité internationale, lire David Lodge, c'est comme retrouver un petit sac de bonbons anglais oublié au fond d'un placard, mais qui a gardé son petit délicieux goût, un peu étrange parce que c'est des bonbons anglais, mais à la fois sucré, avec une pointe d'acidité. Moi, je trouve que ce sont des romans réjouissants, malicieux, qui donnent la pêche, comme quand on voit une bonne comédie musicale, vous voyez. Ça constitue pour moi l'incarnation vraiment parfaite du fameux humour anglais, effectivement. Un mélange d'ironie, de farce, de cynisme, mais de cynisme bon enfant, beaucoup d'autodérision, ce qui est quand même un grand point. Et puis il y a quand même beaucoup de subtilité, il y a aussi un peu de gravité dans son œuvre, notamment dans son œuvre autobiographique et dans la deuxième partie
vers
de sa carrière. Voilà.
J'aimerais qu'on revienne à son enfance. Il grandit pendant la Seconde Guerre mondiale. Son rêve, quand il est gamin, c'est de devenir journaliste sportif. Il suit des études de lettres. Il devient professeur à l'université de Birmingham où il y restera 27 ans. Et l'université qui sera le décor principal, la matrice de nombreux romans, et Julie Neveu y reviendra largement dans sa chronique, Denis Cosnard.
Oui, c'est marrant parce que il est né en 1935, donc juste à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Et on aurait pu se dire, c'est juste le pire moment pour naître pour un Européen. Ça veut dire qu'il a eu une enfance qui a été très marquée par la guerre mondiale. Il a dû quitter Londres pour éviter les bombardements. Et alors, lui, il dit exactement l'inverse. Il dit « Je suis né plutôt au bon moment ». C'est le titre d'un des volumes de son autobiographie. Il dit « Ben non, au fond, j'ai vécu des trucs affreux, effectivement. Des déménagements, les bombardements, etc. etc. Mais tout ça, je l'ai capté, il l'a capté. Et il disait « C'est comme si je mettais de l'argent en banque, et que plus tard, comme romancier, je pouvais me servir de tout ça. Il a sorti effectivement petit à petit son argent de sa banque, tous les souvenirs qu'il avait amassés, les expansifs et les dépressifs qu'il avait côtoyés, sa tante hyper bavarde dont il était à moitié amoureux, enfin tout ça, il l'avait enregistré et il l'a utilement dépensé pour notre plus grand plaisir.
Delphine Valentin, comment avez-vous découvert David Lodge?
Alors moi je l'ai découvert quand il est sorti aux éditions Rivage dans les années 90. J'étais en fac de lettres justement, j'étais en train d'étudier Claudel et je pense que le plus récent au programme ça devait être Dos Passos, avec beaucoup de gravité, tout le vocabulaire stylistique des professeurs, des universitaires. Et j'ai découvert en lisant David Lodge qu'on pouvait rire en lisant, et rire vraiment à haute voix, comme, voilà. Et je découvre aussi en même temps l'humour british, mais j'ai une espèce de grand ensemble d'humour. J'avais aussi David Lodge, j'avais aussi Tom Sharp, oui. Woodhouse, enfin, voilà, il y a les Monty Python. C'est toute une époque où on découvre quand même quelque chose qui n'a rien à voir avec la littérature française de cette époque aussi. Et voilà, c'est la découverte de l'érudition drôle pour moi, David Lodge. Et aussi, en même temps, des éditions Rivage.
Vous aviez l'air de tiquer quand Denis Cosnard a dit que c'était peut-être pas un grand écrivain qui restera
dans l'histoire de la littérature.
Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord ?
Je pense qu'il a une place tout à fait à part également dans les écrivains, les écrivains anglais contemporains, ses contemporains, avec Jonathan Coe, etc. C'est vrai que lui, il a une place à part. Peut-être que si on s'en tient au campus novel, c'est quelque chose d'assez particulier. Mais je pense qu'à la fois La vie en sourdine, Thérapie sont des textes qui vont rester. Et aussi, il a écrit énormément de choses différentes. Et il a écrit des autobiographies, des biographies fictionnelles, comme L'auteur-l'auteur dont on parlait, qui sont brillantissimes.
L'auteur-l'auteur qui met en scène deux écrivains majeurs, Henry James et H.G. Wells.
Voilà. Alors L'auteur-l'auteur, c'est avec Georges Du Maurier.
Ah oui.
Voilà.
Oui.
Et un homme de tempérament, c'est H.G. Wells.
Oui, voilà, c'est ça.
Voilà. Et L'auteur-l'auteur, c'est très drôle parce qu'il met en scène justement un auteur, Henry James, qui est en manque de reconnaissance, qui décide d'écrire une pièce de théâtre en pensant que ça va lui apporter le succès et qui se fait complètement huer à la première. Enfin voilà, c'est un...
Guillemette Audicino.
Mais est-ce que sa particularité, enfin moi c'est ça que je trouve que ça en fait un auteur britannique à part, c'est qu'il est catholique.
Absolument.
Mais dans un pays qui n'est pas très catholique. Enfin, je veux dire, non, mais où les catholiques sont en minorité. Et donc, il a un regard particulier sur la société anglaise parce que cette particularité de religion le décale par rapport à l'Angleterre, non ? Enfin, moi, je trouve que c'est ça.
Ah, absolument. Un peu son... ouais, il en parlait comme, il se sentait minoritaire, effectivement. Et puis, ça compte énormément dans ce qu'il a écrit.
Oui, puisque,
il parle beaucoup de religion et du poids de la religion sur la sexualité, parce que c'est quand même un thème qui traverse son œuvre.
Denis Cosnard.
Mais oui, c'est effectivement un thème majeur de son œuvre et de sa vie, sûrement, parce que voilà, il a eu un parcours. Il raconte en permanence cette Angleterre un peu rigide, un peu coincée, hein, l'Angleterre des années 50, celle où il a découvert la sexualité, c'était pas fastoche et pas riant tous les jours, là, c'était pas grand bien vous fasse tous les jours. Donc, il découvre ça, il se marie avec une femme, Mary, qui est tout à fait, qui a une religion tout à fait chevillée au corps, et qui va la garder jusqu'à la fin de sa vie. Et lui, petit à petit, se défait de ça, il prend du recul, et donc, effectivement, il met en scène dans ses romans toutes ces interrogations, la chute du British Museum en particulier, un de son premier grand succès, tant en Angleterre qu'en France, raconte l'histoire d'un doctorant qui est là, à son bureau, à la bibliothèque, en train de se demander, d'essayer de d'écrire son bouquin, enfin, d'écrire sa thèse, et puis, effectivement, il y a le problème de la contraception qui se pose lourdement. Est-ce qu'il va avoir un quatrième enfant ou pas ? Oui,
mais
non.
C'est très, très drôle.
D'où le catholicisme.
Je suis en train de le relire. Je l'avais lu il y a une trentaine d'années, mais c'est hyper drôle. Hein, la chute du British Museum. Et donc, je précise, H.G. Wells, c'est dans Un homme de tempérament, et Henry James dans L'auteur. Voilà. Christina Pelledwell.
Mais à propos de la notoriété et de l'importance de David Lodge dans la littérature, Umberto Eco était quand même un très grand admirateur de David Lodge, donc c'est pas rien, je veux dire, c'est pas un petit auteur secondaire, à mon avis il restera quand même, vraiment, non mais c'est vrai, dans l'histoire de la littérature, comme vous disiez que c'était un type de littérature, mais pas seulement, c'est vraiment beaucoup plus varié que ça.
Julie Neveu ?
Non, je voulais ajouter par rapport au regard décalé, que c'est dans tous les domaines qu'il a ce regard décalé, il y a la sexualité bien sûr, mais par exemple à l'université aussi, il disait beaucoup qu'il avait bénéficié de la méritocratie et que c'était plus trop possible après Thatcher, etc. Et en fait, il y a cette simplicité qui permet ce regard complètement décalé sur les enjeux absurdes d'autorité de l'université. Et donc à chaque fois, c'est ça qui le mène vers la satire. Enfin, il y a en effet, moi je trouve que c'est de la grande littérature parce qu'il transcende tous les genres et qu'il arrive à habiter tous les genres en fait. Je ne sais pas ce que c'est que la grande littérature, je me méfie beaucoup de la grande littérature.
Non, mais c'est la question de l'écriture.
Et
c'est
populaire. Étiquettes.
En fait, on a changé le thème de l'émission.
Là. Tout tourne autour de Denis Cosnard là, ce matin. Allez, il est 10h18, il est l'heure de retrouver un autre plaisir littéraire avec Christina Pelledwell. Alors, Christina, vous avez choisi l'affaire de la rue Transnonain de Jérôme Chantreau et c'est publié aux toutes nouvelles éditions La Tribu.
La Tribu, qui fait partie d'un tout nouveau groupe éditorial fondé par Arnaud Nourry et qui a décidé...
Les nouveaux éditeurs.
Voilà, les nouveaux éditeurs et dont l'ambition est de soutenir une politique éditoriale libre. Je ne dis rien, mais je vise un certain nombre d'autres groupes, suivez mon regard, voilà. Et donc, La rue Transnonain fait partie des deux premiers romans publiés par La Tribu. C'est un roman historico-policier, formidable. Chantreau est passionné d'histoire et il explore un épisode insurrectionnel à Paris de 1834. Alors, quand on était à l'école ou à l'université, on a beaucoup étudié la révolution de 1830, celle de 48. Mais ce qu'il y a entre les deux, alors que, et je ne le savais pas moi-même, j'ai découvert qu'il y avait eu une quantité absolument extraordinaire d'insurrections partout dans Paris, et pas seulement dans Paris, en province aussi, à Lyon et ailleurs. Donc voilà, un jour se produit un épisode d'insurrectionnel dans Paris, barricade, la troupe donne l'assaut dans le quartier de Beaubourg, d'ailleurs, ça se passe juste à côté de la rue Beaubourg, qui était la rue Transnonain, une partie était la rue Transnonain. Donc la troupe donne l'assaut, Et il se trouve qu'un coup de feu part d'un endroit, on ne sait pas trop lequel, mais il est décidé que c'est un immeuble de cette fameuse rue Transnonain. La troupe entre dans cet immeuble et massacre absolument tous les habitants qui étaient dans leur lit à ce moment-là. Mais absolument tout le monde, sauf, alors ça c'est dans le roman et c'est aussi dans la réalité, une jeune femme, une jeune prostituée qui réussit à s'enfuir. C'est un massacre épouvantable, tellement épouvantable que Daumier en fait une gravure extraordinaire qui suscite un mouvement d'épouvante dans la population. Et Monsieur Thiers, Premier ministre à l'époque, décide de lancer une enquête pour savoir ce qui s'est réellement passé, mais également, là il faisait ses armes, si j'ose dire, de lancer la répression. Avant, bien sûr, la commune, 1871, etc. Voilà. Et l'auteur, Jérôme Chantreau, s'est plongé dans les archives, mais d'une manière absolument extraordinaire. Et dans ce livre, il arrive à faire revivre à la fois... Alors, il romance un peu, hein, parce que le sort, en fait, de la jeune femme, de la jeune prostituée, on ne sait absolument pas ce qu'elle est devenue. Elle a disparu, on ne sait pas où elle est passée. Mais lui... met en scène des personnages qui vont la chercher, qui vont la retrouver, et qui vont retrouver cette jeune femme qui... Alors, ça, c'est formidable, il fait un portrait du Paris de ces années-là, avec les Saint-Simoniens, avec des journaux féministes, écrits uniquement par des femmes. Enfin, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Il a un talent d'écriture. Ce livre, c'est vraiment un très grand roman populaire, au meilleur sens du terme. C'est vraiment la croisée d'un Zola et d'un Hugo, mais je dirais avec sa patte à lui, une patte beaucoup plus moderne. Mais c'est remarquable. Moi, je prends le pari que Chantreau va rafler des prix. Je prends le pari.
Ça s'appelle L'affaire de la rue Transnonain de Jérôme Chantreau, et c'est publié toutes nouvelles éditions. La Tribu, c'était donc le plaisir littéraire de Chrissy Lapelle-Edouelle, l'autrice de ces livres qui nous font du bien. Tiens, mon petit doigt me dit que l'ami du vendredi, c'est maintenant. Bah oui, elle est prête, Guillemette Odissino.
Que France Inter.
Chouette, tu es Harry Potter.
Grand bien vous fasse.
Je suis Hermione Granger et...
Évite de choisir tes amis parmi les gens douteux. Je peux te conseiller.
Guillemette Odissino.
Alors, cher Ali, votre petit doigt a raison. voilà. Alors, cher Ali, puisque David Lodge a inventé, plus ou moins, enfin en tout cas, donné vraiment toute sa saveur au roman de campus, avec l'université comme petit monde de toutes les vicissitudes, j'ai immédiatement pensé à ma copine Victoire, qui, bon sang de bonsoir, en a connu des vertes et des pas mûres pour obtenir un diplôme universitaire. Je vous parle de Julie Victoire Daubier, qui fut, en 1871, la première Française à obtenir sa licence S-Lettres. Elle avait 47 ans et n'avait pas chômé pour en arriver là. Cette petite dernière d'une famille de 8 enfants vivait en ce beau temps jadis où personne ne voyait un quelconque intérêt à ce que les femmes acquièrent du savoir. Un de ses frères, merci à lui, lui enseigna en douce le grec et le latin, ce qui permit à Victoire de décrocher, bien plus tard, à 20 ans, un brevet supérieur de capacité. C'était le diplôme obligatoire pour devenir institutrice laïque, alors que les institutrices religieuses, elles enseignaient sans aucune capacité. Toujours avide de connaissances, Victoire s'inscrit plus tard au Muséum d'Histoire Naturelle. Elle suit des cours de zoologie. En 1861, bravache, elle se présente comme candidat au baccalauréat à Paris. Bah non, on est désolé, vous êtes une femme. Donc c'est à Lyon que finalement s'ouvriront les portes du bac. Pourquoi ? Parce qu'entre-temps, c'est lors d'un concours à la fac de Lyon justement qu'elle a rédigé un mémoire sur un sujet fou pour l'époque et qui a remporté un prix. Alors le 17 août 1861, à 37 ans, elle est finalement reçue au baccalauréat et devient donc la première bachelière de France, alors que le féminin de bachelier n'existe pas encore. Ou alors pour désigner à l'époque une fille qui couche avec un bachelier.
Alors, pardon, mais vous parliez d'un écrit majeur de votre Victoire, hein, Julie Victoire Daubier.
Mais c'est bien, Ali, vous suivez, hein, oui. Votre petit doigt, là, impeccable. Alors, oui, avant même donc d'être bachelière, elle avait rédigé un énorme essai qui, en 1867, sera publié sous le titre « La femme pauvre au XIXe siècle » et traduit dans le monde entier. Alors, elle y recense les différentes causes du paupérisme des femmes seules, célibataires, y désigne l'État comme responsable des inégalités hommes-femmes dans l'emploi et de la disparité salariale, elle y défend la nécessité de revaloriser le travail féminin, indispensable à l'émancipation de la femme, elle assène que l'égalité homme-femme favorise non seulement l'épanouissement individuel, mais aussi celui de la famille et de la nation, je vais pleurer, dans une version enrichie, bon, alors un peu moralisante, mais bon, on est quand même en 1869, et la vertu à l'époque est capitale. Elle milite aussi pour le droit des filles mères à rechercher la paternité de leur bébé, et plus tard, dans des articles de presse et des chroniques, eh ben, Christina en parlait tout à l'heure, elle appelle au vote des femmes, tout en participant à la création du journal Le Droit des Femmes. Elle a même siégé dans une commission dont les propositions se retrouveront dans les lois de Jules Ferry pour l'enseignement. Alors, Victoire est morte en 1874, à 50 ans, de tuberculose. Elle était diplômée ès-lettres, donc, depuis seulement 3 ans. Elle n'a pas eu le temps de finir la thèse de doctorat qu'elle avait commencée sur la condition de la femme dans la société romaine. Et surtout, elle n'a pas eu le temps de savoir, heureusement d'ailleurs, que le vote des femmes prendrait encore... Alors attendez, je calcule, hein, je compte sur mes doigts, 1944, ah bah oui, 70 ans.
Vous connaissiez cette Julie-Victoire Daubié autour de la table, vous connaissiez cette figure?
Non.
Merci beaucoup.
Non.
Oui,
on sait que vous la connaissiez, vous?
Oui. Mais je n'ai pas étudié du tout.
Mais merci beaucoup à Guillemette Destino de mettre en lumière Julie-Victoire Daubié. Tous les épisodes de L'Ami du Vendredi sont à podcaster sur l'appli France Inter. Dans un instant, on continue à explorer le plaisir de lire David Lodge. Ce sera juste après avoir écouté The Libertines, Can't Stand Me Now, une chanson sortie en 2004, 10h26 sur France Inter. Can't Stand Me Now.
Grand bien vous fasse.
J'ai le cou massif, comme un tronc d'arbre, mais des bras assez courts, ce qui me complique la vie pour trouver des chemises à ma taille. Je suis allé en Amérique. où ils ont découvert que certains hommes ont les bras plus courts que la moyenne. En Grande-Bretagne, je ne sais pourquoi, il est seulement permis d'avoir les bras plus longs que la moyenne.
Sur France Inter.
Extrait de Thérapie de David Lodge, Grand bien vous fasse week-end. Et nous célébrons ce matin le plaisir de lire ce grand écrivain britannique, mort en janvier dernier, l'auteur de Changement de décor, de Jeux de société, de Thérapie, d'Un tout petit monde et de bien d'autres romans. Et des essais aussi, il a écrit des essais aussi, Delphine Valentin. Je rappelle que vous êtes éditrice chez Rivage, l'éditeur français historique de David Lodge. Il n'a pas écrit que des romans. Hein.
Non, en fait, il a mené de front ses deux carrières, en fait, de romancier et d'universitaire. Il a quitté Birmingham assez tard, en fait. Et il avait un grand plaisir aussi à dévoiler les coulisses de son écriture. Donc, il y a beaucoup de textes de lui, dont L'art de la fiction, entre autres, et qui explique, en fait, comment il écrivait. Il tenait à expliquer comment il écrivait ses romans, les structures narratives. Et puis, de toute façon, c'était un grand spécialiste de la littérature. Donc, et il a aussi rajouté souvent des préfaces à ses livres, y compris pour les Français, pour expliquer comment il avait construit son œuvre.
Julie Neveu.
Mais c'est marrant, j'ai l'impression que tous les profs d'université qui écrivent des romans expliquent Robert Merle aussi, qui a fait quelque chose qui ressemble presque à un roman universitaire avec derrière la vitre, les vitres, à propos de l'émeute à Nanterre. Enfin, il avait prévu. Bref, explique d'abord. Et donc, je voulais dire qu'il y a quelque chose de pédagogique qui est fascinant, parce que même dans les romans, vraiment, vous vous mettez à comprendre des choses, genre le structuralisme, quelque chose. Et bien, à la fin, on comprend. C'est-à-dire, non seulement il s'en moque, mais il l'explique. Et ça, c'est rare.
Pour vous, Denis Cosnard, je rappelle que vous êtes journaliste au Monde, les romans de David Lodge pétillent d'intelligence et de drôlerie. Mais qu'est-ce qui fait la drôlerie, le comique des romans de David Lodge, qu'on retrouve par exemple dans La chute du British Museum, Un tout petit monde? C'est quoi l'essence du comique chez David Lodge?
Alors, c'est un comique un peu pince sans rire. Hein.
Oui.
On l'a entendu dans l'extrait qui a été lu tout de suite. Voilà, un regard légèrement en recul, mais très acéré, et puis un sens, un comique de situation aussi, parce que dans Jeux de société, dans plusieurs de ces romans, il y a des histoires d'échange. Moi, j'ai relu là pour l'émission Changement de décor.
Ah oui, ça,
un
c'est
roman
bien, ça.
Qui date de 75, où il y a deux professeurs. C'est l'histoire de deux professeurs de littérature anglaise. De 40 ans, l'un britannique, l'autre américain, qui échangent pour 6 mois. Il y a un programme d'échange entre les États-Unis et l'Angleterre. Et donc, ils échangent leurs postes et finalement, ils échangent aussi leurs épouses. C'est ça qui est évidemment assez drôle. Et c'est merveilleux, ce bouquin. C'est un petit bijou. C'est un roman à la fois satirique et sociologique, presque ethnologique, sur les tribus universitaires, sur le monde universitaire en Angleterre et aux États-Unis. Ça a un petit peu vieilli, c'est normal pour un roman écrit il y a une cinquantaine d'années, mais au fond, ça a plutôt bonifié le texte, ça lui donne un intérêt supplémentaire un peu historique. Ce livre, finalement, qui est un bon exemple de la littérature, des très bons romans de David Lodge, ça nous replonge dans les passionnantes années 60, 70, qui sont le cadre de beaucoup de ses romans, avec d'un côté la Californie qu'il rebaptise Euphoria, en plein trip Flower Power, la révolution sexuelle, ce qu'on appelait à l'époque la libération des femmes, la marée urbana, le Vietnam, etc. Et puis de l'autre, on a une Angleterre industrieuse, coincée, rigoriste, assez pauvre, symbolisée par la ville de Rummy, qui est la ville
fictive,
une grande ville industrielle au centre de l'Angleterre. Alors, il décrivait une ville très grise, très sale et surtout très laide. Une ville donc effectivement imaginaire, inspirée. Alors, il disait, située à l'endroit occupé par Birmingham sur les cartes du monde prétendu réel. Et j'adore cet humour.
Et à propos de changement de décor, vous disiez dans Le Monde que ce livre dépeint les mœurs d'un petit groupe de mammifères cabotins et paresseux, voyageant autour du monde, de colloques en congrès, à la recherche de reconnaissance intellectuelle et de frissons érotiques. Donc, lisez Changement de décor. Christina Pelédoine sur l'humour de David Lodge.
Ah oui, j'adore. Et puis, il manie évidemment à merveille, étant britannique jusqu'au bout des orteils, il manie à merveille l'understatement. C'est-à-dire dire beaucoup moins pour exprimer le plus. Et donc, jamais, jamais, il ne souligne aucun effet. Ce qui a par conséquent
obtenir, ce qui lui permet d'obtenir un effet comique démultiplié. Mais ça, c'est vraiment typique, parce qu'un de ses livres favoris, c'était Trois hommes dans un bateau, qui pour moi est un des summums de l'humour anglais. Et on retrouve ça, cette manière de dire des choses absolument incongrues, avec un air très sérieux, qui évidemment provoque un effet comique irrésistible.
Guillemette Audicino.
Et puis cette histoire de constamment en fait, raconter le microcosme ou universitaire, ou ces histoires d'échange, pour pouvoir ou parler des Américains avec beaucoup de sarcasme, ou des Anglais avec le même sarcasme, en fait c'est très Montesquieu, en fait c'est les lettres persanes. Très souvent, c'est le principe des lettres persanes, c'est-à-dire un regard de, soi-disant, d'un étranger sur un petit monde qu'il nous fait découvrir avec cette espèce de petit recul, quoi. C'est exactement ça.
Julie Neveu.
Oui, et d'ailleurs, le regard naïf, là, c'est Perse dans le personnage d'un tout petit monde, Perse comme la moitié de Perceval, parce qu'il y a aussi, ce que je voulais dire, c'est que le comique, il explore mais toutes les ficelles du comique, en fait. Il y a le boulevard, en effet, donc Perse est pris d'idéaux, est éperdument amoureux d'une jeune fille, Angelica, malheureusement, elle est très très sexuelle, alors que lui, il veut pas coucher avant le mariage. Et donc, elle lui donne rendez-vous dans sa chambre d'hôtel, et en fait, il se retrouve à retrouver un autre collègue qui, lui, est déjà dénudé, attend la même Angelica qui n'est pas venue. Et donc, il y a du trivial qui s'invite au milieu du rêve. Et à la fois aussi, je voudrais dire que malgré tout ce rire, il y a aussi de l'émotion et de l'intérêt pour l'histoire. Et ça aussi, c'est pas évident à tenir. L'ironie avec l'intérêt du premier degré, quand même.
Delphine Valentin, cette description du monde universitaire fera rire toutes celles et tous ceux qui sont complètement éloignés de ce monde universitaire.
Je pense vraiment.
Universel.
Oui, c'est universel. Et puis, il y a tellement de scènes, de situations absurdes, drôles. Justement, sur Perse, il y a un moment où il veut aller... il y a plein d'anecdotes très drôles, mais il veut aller acheter des préservatifs dans une pharmacie, puis il n'ose pas tellement le dire, puis il a un petit accent gallois. Et donc, il se retrouve à partir, au lieu de partir avec des Durex, il se retrouve à partir avec du lait maternel qui est Sarex. Et voilà, donc il y a vraiment... On n'a pas besoin de tout maîtriser du campus Novel pour en profiter. Et c'est pas une limite.
Le campus Novel, le roman universitaire. En France, on découvre David Lodge avec retard, dans les années 1990. Pourquoi David Lodge a-t-il connu un grand succès en France ? Pour David Lodge, ce succès français était un mystère. Je le cite, c'est vraiment un mystère. Je me sens tellement anglais et mes romans sont si pleins de références à la culture anglaise. Pourquoi est-ce qu'il a connu un tel succès depuis les années 90?
Alors je me sentirais un petit peu mal de dire que j'ai mieux compris que lui, Mystère Lodge. Alors c'est vrai qu'en plus lui c'était doublement une chance pour lui, parce qu'il explique que c'est le moment où en Angleterre ses romans commencent à être un peu moins, voilà, c'est plus la découverte, nous on le découvre, et je pense qu'on l'a déjà dit, mais je le redis, c'est vraiment la découverte de l'humour british, de ce côté un peu absurde. Et en même temps je pense que certes c'est très anglais, mais moi je trouve qu'il y a chez lui quelque chose d'un peu sociologique, très pragmatique sur la description d'une époque, et où on pouvait fumer dans les avions, on prenait l'avion sans cesse, etc. Et je pense qu'il y a quelque chose comme ça qui pouvait toucher aussi le lecteur français.
Et son succès a explosé en même temps que Julianne Barnes, Martin Amis ou Ian McEwan, trois autres écrivains majeurs de la littérature britannique. Denis Cosnard, comment vous écrivez cet intérêt français pour les romans de David Lodge ?
Oui, il expliquait qu'il était né aussi au bon moment, parce que plus tard, quand il est devenu un grand écrivain, un écrivain très reconnu, disons, voilà. Ça va quand même, hein, on peut dire les choses. Demi-rattrapage. Bon, c'est arrivé à un moment, effectivement, qui a été un peu un âge d'or pour le roman britannique, où toute une génération d'auteurs que vous avez cités est sortie de l'ombre, a été choyé par les éditeurs, a connu un grand succès, il y avait la médiatisation, il y a eu les prix, etc. Et donc, il a bénéficié de toute cette bulle qui a bénéficié à Rushdie, à Anita Bruckner et à quelques autres, en effet.
Delphine Valentin ?
Oui, mais je veux dire, c'est aussi... du fait de... Là, on en était dans l'édition française, c'est un moment aussi où on a... C'est devenu quelque chose de plus, beaucoup plus... enfin, on mettait en avant des auteurs avec beaucoup plus de moyens, etc. Et l'éditeur de chez Rivage, Gilles Barbedette, qui l'a découvert, y est pour beaucoup.
Ouais. Christina.
Il me semble, je me trompe peut-être, hein, mais que dans l'histoire des relations littéraires entre la France et l'Angleterre, l'amour de la France pour la littérature britannique ne date pas de David Lodge ou de Martin Amis. C'est bien antérieur. Et de l'humour en particulier. Je veux dire, Swift a été un auteur adoré en France. Et c'est quand même, ça remonte à quelques années. Mais il n'y a pas eu que ça. Hein. Mais c'est historique, ce lien France Grande-Bretagne en ce qui concerne l'humour et la littérature.
Écoutons à nouveau David Lodge.
Un être humain est manifestement un animal. Il a beaucoup en commun avec les animaux. Mais il existe une notion de conscience, de langage et de culture qui nous distingue d'eux. J'ai lu l'autre jour que les deux différences majeures entre un être humain et un animal sont le langage verbal et le tabou d'avoir des relations sexuelles en public. Ce qui est un critère plutôt convaincant. C'est notre attitude vis-à-vis de la sexualité qui nous définit véritablement en tant qu'humain.
Very, very defining of humanity. And the fact that we know we're going to
die. Et aussi le fait d'être conscient que nous allons mourir. Et toute la structure de la pensée religieuse qui est fondée sur cette découverte, tout cela fait de nous des humains.
David Lodge, dans une vidéo des éditions Rivage, deux thèmes récurrents hein, dans l'œuvre de Lodge, le sexe et la religion. À propos de la place de la religion catholique dans ses romans, David Lodge disait dans Télérama « La religion catholique a donné à mon écriture un regard critique particulier sur la société dans laquelle je vis, un intérêt pour les conflits moraux, les thèmes du péché, de la culpabilité, qui sont un matériau de choix pour un romancier. Delphine Valentin.
Oui, mais c'est vrai. Moi, j'étais en relisant, là, j'étais assez fascinée par l'espèce de pragmatisme avec lequel il observe la société et la sexualité. Il en parle, alors, quand on sait d'où il vient, il en parle avec une facilité, une aisance, et en même temps, aussi, ce qui m'a frappée en le relisant, c'est à quel point il y a un côté égalitaire aussi, dans la façon dont il parle du rapport des femmes à la sexualité, et c'est très simple, et c'est très clair, et c'est à l'époque, je pense, assez osé aussi.
Denis Cosnard ?
Non, mais j'approuve tout à fait. Ce sont des romans écrits par un homme où il y a des femmes, et des femmes qui ne sont pas des femmes alibi, c'est des personnages féminins, des femmes puissantes, bien plus sympathiques et futées, à vrai dire, que leurs comparses masculins, souvent. Donc ça, je pense que c'est un atout. Et puis, effectivement, il y a des scènes sur les tourmentes catholiques, etc. Moi, j'ai relu là pour cette émission sa biographie, ses œuvres, bon, c'est un peu longuet, à vrai dire, parce qu'il y a trois tomes, c'est un tout petit peu long, mais bon, il y a quand même des scènes. D'abord, il y a des moments très touchants, notamment quand il parle, par exemple, de son fils. Il a eu un grand malheur dans sa vie, parce qu'il avait un fils lourdement handicapé. Mais il y a aussi des scènes incroyables à mourir de rire, par exemple quand il raconte sa tournée en France. C'est un grand écrivain, donc maintenant connu, reconnu, etc. Il fait une série de conférences sur la romancière du 18e siècle, Jane Austen. Il va de ville en ville, Toulouse, Montpellier, Aix, et à chaque fois, le soir, il s'éclipse discrètement et il va voir un film pornographique. Gorge profonde, l'essayeuse, et parce que c'est encore interdit en Angleterre. Et il écrit... J'ai profité de l'occasion pour mieux m'informer. C'est un sujet d'information. Sur la révolution sexuelle en cours, très conscient malgré tout de l'ironie qu'il y avait à poursuivre cette recherche, le soir, tandis que dans ma journée, je faisais ma conférence sur l'une des romancières les plus chastes et les plus réservées du canon littéraire anglais. Ben voilà, c'est pour ce genre de phrase que moi j'adore David Lodge.
Pour terminer, quel roman de David Lodge conseillez-vous de lire en premier pour toutes les auditrices et les auditeurs qui ne l'ont encore jamais lu, mais qui vont se précipiter après cette émission? Delphine Valentin, par quoi commencer?
Moi, j'aurais tendance à parler de la chute du British Museum, parce qu'il y a justement tous ces thèmes, alors en particulier le poids du catholicisme sur la sexualité et sur le fait d'avoir trop d'enfants. Et en même temps, ce qui est passionnant dans ce livre, c'est qu'il y a aussi, on voit aussi son talent littéraire, parce que c'est une série de pastiches, en fait. On n'a pas besoin de tous les reconnaître, mais si en plus on les reconnaît, c'est vraiment passionnant.
Denis Cosnard ?
Jeux de société, c'est un roman merveilleux sur, là aussi, un échange, une jeune universitaire spécialiste du structuralisme qui se retrouve en stage pour 6 mois dans une usine anglaise avec un patron absolument déprimé.
Ça donne envie, Jeux de société. Et vous, Julie Neveu ?
Hors de l'abri, et je trouve ça beau aussi, et c'est sur son enfance, les bombes, la difficulté, l'exil avec sa mère pendant la période de la guerre, c'est très beau.
Parce que David Lodge avait exploré une veine un peu plus sérieuse avec La vie en sourdine ou encore L'auteur. Même vous dodelinez, Delphine Valentin ?
Non, parce que La vie en sourdine est quand même, même si c'est sur la mort du père, etc., c'est très très drôle.
Donc vous conseillez La chute du British Museum, Jeu de société et...
Hors de l'abri.
Thérapie. Extraordinaire thérapie avec ce regard ironique justement sur tous les types de thérapie. Ça, c'est un thème que vous avez exploré à de nombreuses
années. Mal au genou, lisez-le.
Bref, lisez tout David Lodge. 10h45, il est l'heure de retrouver la chronique philo de Thibaut de Saint-Maurice.
France Inter, grand bien vous fasse.
C'est pas un truc d'intello la philosophie, c'est pas de la masturbation intellectuelle. Personne n'a à vous dire ce que vous devez penser, hein. Personne, jamais.
Alors ce matin, Thibaut de Saint-Maurice, vous nous proposez une chronique en forme de plaidoyer pour la liberté académique.
Oui Ali, parce que depuis une dizaine de jours, cette liberté académique, eh bien, elle est attaquée aux États-Unis par Donald Trump et son administration. Et je me dis que David Lodge aurait eu bien du mal cette fois à faire une comédie de ce nouveau contexte de la vie universitaire. Il est donc devenu très difficile, voire impossible, de financer une recherche aux États-Unis portant sur les droits des femmes ou des minorités, sur les expressions de genre, sur la diversité ou sur le changement climatique. Bref, sur bien des sujets qui ont contribué à élargir notre expérience et à faire progresser notre connaissance. Pire encore, de nombreuses recherches déjà existantes, des articles publiés, des études menées ont été déréférencées et ne sont donc plus disponibles. Je travaillais la semaine dernière avec des collègues universitaires américains de l'université de Boston qui m'expliquaient notamment comment ils tentaient là, en ce moment, que c'était leur priorité des journées de ces semaines-là, de sauvegarder leurs recherches sur des serveurs protégés pour ne pas que tout leur travail disparaisse. À travers ces décrets, Trump mène donc une attaque en règle contre ce qu'on appelle en droit la liberté académique. Alors la liberté académique, c'est un principe qui empêche le politique d'intervenir pour contrôler, diriger ou censurer la recherche académique. C'est ce qui protège la recherche de l'idéologie et c'est d'une certaine manière une des conditions essentielles de la recherche de la vérité.
Mais rappelez-nous Thibaut, pourquoi la liberté est essentielle à la production de la connaissance ?
Eh bien d'abord c'est une évidence parce qu'on n'apprendra rien et jamais rien si l'on croit déjà tout savoir. Le pire ennemi de la connaissance, ce n'est pas l'ignorance, mais le préjugé, la certitude de tout savoir déjà. Avant même de commencer à chercher, Socrate, le plus célèbre des philosophes, nous le rappelle à travers l'une de ses plus célèbres punchlines « Je ne sais qu'une seule chose, c'est que je ne sais rien », rappelant ainsi que l'absence de certitude reste le point de départ de la recherche de la vérité et que le dialogue critique en est le moyen privilégié. Sans la liberté de poser des questions sur ce que tout le monde croit, sans la liberté de critiquer les idées des uns et des autres, et surtout de celui qui prétend savoir, il n'y a donc pas de recherche de vérité possible. Des siècles plus tard, un autre philosophe un peu famous, comme Descartes, place le doute au commencement de toute démarche de production de la connaissance. Il faut pouvoir tout mettre en doute, même l'évidence, pour pouvoir assurer ensuite des raisons de tenir pour vrai telle ou telle chose. Là aussi, la liberté est au fondement de la vérité. Et puis enfin, c'est ce que consacre la non moins fameuse philosophie des Lumières, en faisant de l'usage autonome de la raison de chacun la condition d'une connaissance émancipatrice, parce que la vérité ne rend libre finalement que parce qu'elle est le fruit d'un usage déjà libre de l'esprit. Donc, si nous voulons continuer à progresser, nous avons impérativement besoin de questionner nos certitudes et surtout pas de limiter le champ de la recherche, au risque bien sûr de ne plus rien trouver. Alors vous pouvez penser que tout cela ne concerne que les scientifiques et les universitaires et que l'on n'y peut pas grand-chose. Je pense au contraire que cela nous concerne toutes et tous car nous désirons toutes et tous savoir et que, comme disait encore Descartes, le bon sens est la chose du monde la mieux partagée. Chacun peut donc, dans l'ordinaire de sa vie, maintenir vivante la curiosité, le doute, le questionnement, l'esprit critique et surtout l'usage autonome de la raison. Sans s'interdire tel ou tel sujet et en faisant l'effort de laisser de côté ses préjugés et de reconnaître parfois que l'on n'en sait rien. Non seulement on apprendra comme cela plus de choses, mais en plus, effet bonus, on augmentera notre liberté.
La réaction de l'universitaire Julie Neveu ?
Non, mais je suis complètement d'accord et on est tous désespérés. Il y a eu une journée de manifestation le 7 mars, la semaine dernière, Stand Up for Science. On espère que les contre-pouvoirs vont se manifester et s'organiser parce que c'est terrible.
Bah, là, en plus, on est sur un savoir qui est en formation, que Trump empêche. Bientôt, on va peut-être brûler des livres où il y aura déjà du savoir à l'intérieur. Il faut vraiment faire attention, là. Enfin, ça peut être une dérive importante.
N'hésitez pas à partager sur vos réseaux sociaux la chronique indispensable de Thibaut de Saint-Maurice depuis l'appli Radio France. Après les nourritures intellectuelles, les nourritures bien terrestres de Céline Puertas de Elle à table. Alors, Céline Puertas, rédactrice en chef adjointe de Elle à table. Franchement, je suis tombé en arrêt devant la recette à la une du Elle à table. Ah. Et donc, j'ai exigé que vous la partagiez ce matin.
Alors, Ali, je dois vous dire un truc. Désolée, mais c'est pas celle qui est en couve.
C'est pas celle qui est en couve, je me suis trompée.
Ah, on est parti sur les cloud eggs, et ça, c'est des scotch eggs. Bon, on n'est pas très loin du terme, on reste sur l'Angleterre et
j'étais persuadée que c'était... Ouais. Ah ben, si j'avais su, j'aurais changé de recette.
Bah, bon, du coup, est-ce que je fais quand même
quand même, faites-la, allez, je... Donc, redonnez le titre de votre recette.
Alors, il s'agit de cloud eggs. Ne me demandez pas pourquoi on le dit en anglais, sûrement pour avoir l'air cool. Je ne sais pas, œuf nuage, c'est quand même plus joli. Bref, on commence par préchauffer.
C'est au bacon et au granola salé.
C'est au bacon et au gras salé. Au granola salé, oui. Le gros lapsus, il y a évidemment du gras dedans. On commence par préchauffer son four à 180 degrés. On prépare d'abord le fameux granola en mélangeant dans un saladier 200 g de flocons d'avoine, 30 g de graines de courge ou de tournesol, ou les deux, parce qu'on est des fous. 30 g de noisettes concassées, un peu de sel, c'est très long. 2 cuillères à soupe de miel, 2 blancs d'œufs et 90 g de parmesan. Râpé, moi j'avoue j'ai tendance à en mettre un peu plus parce qu'on n'a jamais la main trop lourde sur le parmesan. On mélange bien, on étale tout ça sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé et on laisse dorer pendant 20 minutes. Puis on réserve. Là, important, on augmente la température du four. On prend 4 gros œufs bien frais et on sépare les blancs des jaunes. Attention, la team maladroit, je vous vois. Essayez de ne pas casser ces pauvres jaunes qui vous ont rien fait, parce qu'on va en avoir besoin après. On monte les blancs en neige dans un saladier avec une cuillère à café de zatar. On peut ouvrir un débat sur comment le prononcer, mais j'ai pas vraiment envie tout de suite, jusqu'à ce qu'il soit bien ferme. Sur une plaque de cuisson, on dispose 4 petits tas de blancs d'œufs. En réalisant un petit creux au milieu, ces techniques, ce sont nos futurs nuages, pour ceux qui suivent. On enfourne pendant 3 minutes, puis on les ressort du four, on glisse les jaunes dans les petits creux, oula, ça repart pour 3 minutes au four de cuisson. On aurait vraiment dû faire la recette en couvre. Merci beaucoup pour ça. J'ai pas osé. Bref, pendant ce temps-là, on fait griller quelques tranches de bacon dans une poêle et dernière ligne droite, le dressage. On dispose dans une assiette un nuage, enfin un cloud, et un peu de bacon et une poignée de granola salé. Voilà, c'est beau, c'est bon, c'est croustillant et ça ne manque pas de mordant, un peu comme un roman de David Loge. Elle est facile, mais il fallait que je l'attende.
Donc ça, c'était la recette. C'est des cloud eggs au bacon granola salé. Et à la une, donc, c'est des scotch eggs à la chair à saucisse, sauce crémeuse à la moutarde. Vous retrouvez tout, ces deux recettes, dans le Elle à table actuellement.
Entre bacon et saucisse.
Dans un instant, la chronique avec la langue de notre linguiste Géline Neveu. On se retrouve juste après avoir écouté Clara Isée. On s'aimera.
La tristesse de ce regard, depuis quelques jours je te sens hagard. Est-ce que tu la sens venir, la fin de notre histoire? Mais si le manque d'ivresse nous sépare, moi je veux garder ton amour et guépard comme boussole dans le noir. Un jour je crois qu'on se retrouvera, je garderai ton cœur soldat. Quand la vie nous réunira, on s'aimera. Je crois qu'on se retrouvera, je garderai ton cœur soldat. Quand la vie nous réunira, on s'aimera, on s'aimera. J'aime ta tendresse pleine d'espoir, tout ce que tu donnes sans le savoir, et la façon dont tu rêves le soir. Mais si le manque d'ivresse nous sépare, moi je veux protéger notre histoire comme boussole dans le noir. Un jour je crois qu'on se retrouvera, je garderai ton cœur soldat. Quand la vie nous réunira, on s'aimera, on s'aimera. Je crois qu'on se retrouvera, je garderai ton cœur soldat. Quand la vie nous réunira, on s'aimera, on s'aimera. Et quand la vie nous rappellera toi et moi
Clara Isée interprétée On s'aimera.
L'aigle va fondre sur la vieille buse.
France Inter.
C'est chouette comme métaphore, non?
Grand bien vous fasse.
C'est pas une métaphore, c'est une périphrase.
Oh, fais pas chier.
Ça, c'est une métaphore.
Alors, Julie Neveu, vous revenez sur le genre de la trilogie qui a rendu David Lodge célèbre, genre très anglo-saxon, le campus novel, le roman de campus ou le roman universitaire.
Oui, Ali, il y a genre quand on reconnaît un code, que ce code crée comme un jeu avec le lecteur, des attentes, du plaisir. Le campus novel se passe donc sur un campus avec des universitaires frustrés en quête de pouvoir et surtout de plaisir.
Alors, justement, j'ai une question, Julie, je m'adresse à l'universitaire que vous êtes. Oui. Est-ce que c'est vrai que ce qui intéresse surtout les universitaires, c'est le sexe?
Le quoi? Le A? Le A? Non, Ali, enfin, ça va pas ou quoi? Pas du tout, non, pas du tout.
Pas du tout,
la Sorbonne. Ouais. D'ailleurs, j'ai jamais vu un collègue dans un colloque qui fait rimer poésie avec Zizi ou qui explique, comme Maurice Zapp au début d'Un tout petit monde, que la littérature est un long striptease masturbatoire. Ah si, ça peut être quand même. Enfin, en tout cas, j'ai jamais vu un collègue filer après une conférence au cinéma porno du coin avant de rejoindre une étudiante dans sa chambre d'hôtel. Déjà, il n'y a pas de cinéma porno dans les colloques où je vais, et puis tout s'entend d'une chambre à l'autre, en fait. Les hôtels sont très petits. Bon, bref, Claire, tu peux lancer le son, s'il te plaît, avec David Lodge, qui explique sa combinaison gagnante. Merci beaucoup.
My novels
je crois que mes romans à moi
associent
un récit assez fort, des histoires, mais aussi des idées. Et il y a également de l'humour. Donc on me dit que c'est une combinaison que l'on trouve rarement dans la fiction française de nos jours.
Alors de l'humour, oui, mais de l'humour british, d'après David Lodge, toujours, on en a parlé, de l'irrévérence. Saper le sérieux des modèles d'autorité. Or, Ali, quel est le milieu où il faut à tout prix faire autorité? L'université. Autorité de auteur, celui qui est à l'origine d'une phrase, d'un savoir. En tant que professeur, on cite sans cesse les phrases des autres. Les personnages de Lodge sont pleins de ces phrases qui les font rêver, mais qui sont aussi des figures d'autorité. Et puis il s'agit soi-même d'être cité. Plus on est cité, plus on a de prestige, plus on a de poste potentiellement. Donc irrévérer, c'est renverser l'autorité, la mettre cul par-dessus tête, zizi par-dessus poésie, éjacula par-dessus Derrida, Tarte par-dessus Barthes. Et oui, j'étais très inspiré. Bon, en français, l'irrévérence de Carnaval, la satire du sérieux universitaire, c'est Rabelais. Quand Gargantua, par exemple, alors petit enfant, est à la recherche d'un bon, je le cite, torche-cul, il se met à raisonner. Chier donc nous faut d'avant que le cul torché, je cite un pardon Ali, hein, donc, et son père Grand Gousier le félicite. Mais que tu as bon sens, petit garçonnet, ces premiers jours je te ferai passer docteur en Sorbonne. Mais chez Rabelais, le rire, ce propre de l'homme, est festif, exubérant, gargantuesque. Il n'est pas à l'anglaise, à la Monty Python, à la David Lodge, tongue in cheek, langue dans la joue qu'on se mord pour ne pas rire, c'est-à-dire qu'on performe malgré tout le rituel. Pince sans rire en français, d'un jeu qui est son ancêtre, qui s'appelle Je te pince sans rire du XVIe siècle donc, où on pinçait le visage de l'autre avec des doigts noircis d'encre ou de charbon, et où il ne fallait pas rire. Donc tout ça c'est le XVIe siècle, le même que Rabelais et sa parodie de la Sorbonne, alors symbole de l'autorité pédante. Et on comprend d'un coup pourquoi le genre du campus novel est si peu français. Bon, d'abord, bien sûr, on n'a pas vraiment de campus ou de vie de campus. Donc ça réduit les interactions et la matière romanesque. Mais surtout, pour irrévérer, il faut révérer. Et révérer, c'est honorer, soit par la crainte, et tant mieux si on n'a plus peur des profs. Mais c'est aussi respecter, parce qu'on reconnaît une valeur, un symbole. Bref, il ne peut pas y avoir de désacralisation déglamourisante, parce qu'il y a si peu de sacré, de glamour, de mythe de l'université, comme il y a pu en avoir dans la culture populaire anglo-saxonne, au moins avant Thatcher, comme il y en a aux États-Unis si elle résiste à Trump. Nos genres intègrent nos idéaux, nos idéologies et nos rêves, les milieux où se jouent nos petites tragédies et nos grandes comédies, pourvu qu'on nous laisse les jouer.
La chronique avec la langue de Julie Neveu a podcasté sur l'appli Radio France. Et c'est ainsi que s'achève Grand Bien Vous Fasse Week-end. Merci aux amis du vendredi. Julie Guimette, Thibaut, Céline et Christilla. Merci Denis Cosnard du Monde. Merci Delphine Valentin. Tous les romans de David Lodge sont disponibles chez Rivage Poche. Tout au long de la semaine, l'émission a été préparée par Nathalie Romero, Lysiane Larbani et Cyrine Ben-Younes avec l'aide d'Antoine Poitras, à la réalisation Claire Destacan et à la programmation musicale Valentine Chaudebois. Demain, je vous retrouve à 9h30 sur France 2 dans l'émission Bel et Bien avec Agathe Le Caron. Et lundi, comment le stress impacte notre santé cardiaque. Le stress, un facteur méconnu dans l'hypertension, l'insuffisance cardiaque ou l'infarctus du myocarde.